Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, et c'est Clap. Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans mensaux, proposée par Michel Lafon. Cette semaine, il y a 8 nouveautés sur les écrans mensaux. Le secret de la cité perdue, Le monde après nous, Qui à part nous, Un talent en or massif, Les Secpas, Murina, Ogre, Icomet. Voilà, eh bien, on va démarrer tout doucement par une chanson qu'on entend sur la fin du film Le monde après nous. C'est William Scheller, ça s'appelle Un homme heureux, c'est quand même quelque chose qui est très très connu. Sur Radio Alpa, 107.3 FM, un homme heureux, William Scheller.
Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont, quand ils s'en viennent, le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, bah y'a rien à dire. Y a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels quand ils vous parlent d'eux? Y a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Je veux être un homme. Je veux être un homme heureux.
Eh bien, c'était William Scheller, et donc voilà qu'arrive dans le studio, eh bien, Pierre Barry.
Bonjour, je suis essoufflé, je suis un peu en retard, excusez-moi.
Mais c'est pas grave. On commence donc notre semaine cinématographique avec le film Le secret de la cité perdue, c'est un film d'une durée d'1h52, proposé par le Méga CGR, le Pâté Quinconce et le Colisée. Sachez qu'au Pâté Quinconce, il y a au moins une séance par jour en VO. Et il y en a une de temps en temps également au Colisée. Le film est réalisé par Aaron et Adam Ni. On peut penser qu'ils sont frères. Acteurs, réalisateurs, scénaristes américains. Auparavant, ils avaient réalisé en 2019 Band of Robbers, directement envoyé chez Netflix. Donc, pas de sortie sur les grands écrans en France, en tous les cas. Le secret de la cité perdue, titre original de Lost City, là au moins ça n'a pas trop changé. Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est connue pour ses livres mêlant romance et aventure dans des décors exotiques. Alan, mannequin, a pour sa part passé la plus grande partie de sa carrière à incarner Dash, le héros à la plastique avantageuse, figurant sur les couvertures des livres de Loretta. Alors qu'elle est en pleine promotion de son nouveau roman en compagnie d'Alan, Loretta se retrouve kidnappée par un milliardaire excentrique qui est persuadé qu'elle pourra l'aider à retrouver le trésor d'une cité perdue évoquée dans son dernier ouvrage. Déterminé à prouver qu'il peut être dans la vraie vie à la hauteur du héros qu'il incarne dans les livres, Alan se lance à la rescousse de la romancière. Voilà, propulsé dans une grande aventure au cœur de la jungle hostile, ce duo improbable va devoir faire équipe pour survivre, etc. etc. Allez, la revue de presse très partagée. Caroline Vier dans 20 minutes, Le secret de la cité perdue n'a d'autre prétention que de faire passer un bon moment en compagnie d'interprètes charismatiques. Ce film d'aventure aux péripéties rocambolesques et aux gags nombreux remplit efficacement ce contrat. Nicolas Chalère dans L'Obs, un petit plaisir à ne pas bouder dans ce grand marasme qui est devenu le divertissement hollywoodien. Jacques Maurice, indulgent dans Télérama, l'ensemble Prime Sautier et Enlevé constitue une agréable surprise. Aurélien Alain dans Cinématiseur, sur le papier, cette comédie burlesque et romantique avait tout pour égayer le printemps, mais elle peine à affirmer la moindre singularité. Fabrice Leclerc dans Paris Match, ça ne vole pas toujours très haut, mais une mise en scène vitaminée, l'abattage comique de Sandra Bullock et quelques guests savoureuses, Brad Pitt, Daniel Radcliffe, en ferait presque un bon moment de cinéma pop-corn. Geoffrey Crété dans Écran large, Sandra Bullock et Channing Tatum ne peuvent pas sauver cette poussiéreuse cité perdue qui ressemble à un mauvais remake dans La poursuite du diamant vert et se prend tellement au sérieux qu'elle donne plus envie de pleurer que de rigoler. C'est un peu exagéré.
C'est dur.
Véronique Coapé, Le Monde, le duo mal assorti se confronte à l'aventure façon à La poursuite du diamant vert. Oui, ça a la référence et partout. Sauf qu'ici, tout est tourné en dérision. Les codes du genre, les péripéties, les personnages et même l'esthétique. Les gags sans originalité se succèdent qui rendent secondaire la quête des personnages et cantonnent le film à une pure comédie cartoonesque. Oui, en fait, c'est ce que ça voulait être, hein, de toute façon. Olivier Delcroix, Le Figaro, on s'attendait à un remake décomplexé de La poursuite du diamant vert. On a droit à une comédie poussive et pas drôle où ne subsistent que les rares apparitions de Brad Pitt. Gilles Kerdre dans West France, même avec Channing Tatum, Daniel Radcliffe et Brad Pitt, tout tombe à plat, y compris un humour parfois graveleux. Sophie Beaudoir dans Première, mal assortie et mal servie par des gars qui tombent à plat, ben oui, encore. Le duo Tatum-Bullock se pompe dans la jungle et nous avec. Donc, rappelons que le film est proposé au Méga CGR uniquement en VF, au Pâté Quinconce en VO au moins une séance par jour et en VF et au Colisée. VF la plupart du temps, mais quelques séances également en VO. Donc, Le secret de la cité perdue, c'est un mélange de films d'action-aventure et de comédie romantique. C'est pas exceptionnel, mais il y a quand même un humour bienvenu qui joue sur la dérision envers les héros de ce qu'on appelle la chick lit, la littérature pour poulettes, c'est-à-dire pour femmes. Littérature romantico-érotique avec beau gosse comme héros venant au secours de l'héroïne. Le film raconte donc, sous forme de parodie, les aventures de Loretta, une romancière un peu au bout du rouleau et en panne d'inspiration, enlevée par un milliardaire qui croit qu'au vu d'un de ses derniers romans, elle peut l'aider à trouver le trésor mythique d'une cité qu'il a retrouvé, une cité perdue qu'il a retrouvée. Alors pour lui venir en aide, Loretta peut compter sur Alan. Alan, c'est le mannequin un peu poltron, malhabile, bené, bellâtre, qui sert pour les couvertures de ses romans et qui attire un public féminin, évidemment très intéressé par sa plastique. Comédie souvent drôle, mais pas toujours, il faut bien le reconnaître, parce que des fois ça tombe à plat, comme l'ont souligné certains critiques. Comédie donc entre situation rocambolesque et punchline. Personnages qui se révèlent aussi en cours de route. Alors, tout n'est pas réussi, notamment certains seconds rôles qui sont assez laborieux, comme l'attaché de presse de Loretta, qui a une aventure secondaire, mais qui ne fonctionne pas très bien. Mais dans l'ensemble, on peut dire quand même on passe un moment agréable parce que le rythme est enlevé. Les acteurs font preuve d'autodérision, et notamment Brad Pitt dans un tout petit second rôle, mais il est vraiment excellent dans ce petit second rôle. L'alchimie Sandra Bullock, Channing Tatum fonctionne. Alors certes, on est en terrain complètement connu, mais c'est relativement plaisant, même si c'est prévisible. En tout cas, ça ne renouvelle pas le genre, hein, et une fois de plus, c'est beaucoup trop long parce que ça fait pratiquement 1h55, d'où des baisses de régime qui nuisent à l'ensemble. Mais bon, moi je l'ai vu en VO. En VO, c'est tout à fait supportable, mais bon, on peut aussi s'en passer, hein, faut reconnaître.
Ah, je pense aller le voir cet après-midi.
Bon, eh bien c'est parfait. Le monde après nous, cette fois-ci, on part au cinéaste pour ce premier film d'un jeune réalisateur français qui s'appelle Louda. Ben Salah Casanas, il est venu le présenter la semaine dernière au cinéaste et le film a droit à une ou deux séances par jour. La durée, c'est pas très long, ça dure 1h25. Labidi est un jeune d'aujourd'hui, il va de petite magouille en job d'appoint, habite en colocation dans une chambre de bonne et se rêve écrivain. Mais sa rencontre avec Elisa l'oblige à repenser son train de vie au-dessus de ses moyens. Olivier de Bruyne dans Les Échos, Louda Ben Salah Casanas dresse le portrait d'un jeune homme tiraillé entre ses ambitions littéraires et son quotidien de travailleur précaire. Un premier film original et cocasse. Sandra Onada dans Libération, un film habité de douceur, comme on aimerait en voir souvent, accordant une place émouvante au doute et à l'instabilité. Comme le mot charme paraît faible, ce qui y remue et qui bat pourrait bien être de la grâce. Ah oui, carrément. Sophie Grassin dans L'Obs, cadré au plus près des acteurs, ce premier film prometteur multiplie les scènes gracieuses, humanité des parents, chanson de Larousseau au karaoké, vous l'aurez peut-être à la fin d'ailleurs, mariage cocasse. Le Figaro, Étienne Sorin, Le Monde après nous est un film fauché comme son héros, mais bien plus riche que nombre de longs-métrages aux finances confortables. Baptiste Thion, Le Journal du Dimanche, la force de ce premier film très générationnel repose sur cette sincérité qui transpire à l'écran, malgré une mise en scène un peu sage. Il est aussi mélancolique, romantique, plein de vie et d'humour au diapason de ses personnages attachants, bien incarnés. Thierry Chaise en première, le réalisateur s'empare de ce quotidien dans une mise en image privilégiant les couleurs grises pour montrer la notion d'espoir de plus en plus réduite à la portion congrue. Mais ce parti pris quelque peu illustratif symbolise un film certes inattaquable, mais son constat mais à qui il manque une étincelle qui lui permettrait de décoller. Enfin, Le Parisien, Le Monde après nous qui se vaudrait une dénonciation de l'ubérisation de la société et de l'exploitation des jeunes urbains d'aujourd'hui donne dans la lourdeur dramatisante et livre une vision misérabiliste de notre époque. Donc ce film Le Monde après nous, eh bien, c'est un nouveau film générationnel sur certains jeunes d'aujourd'hui. Sans doute un film en grande partie autobiographique et qui fait le portrait d'un glandeur. Hein. Il est un petit peu étudiant, il a surtout des velléités d'écrivain. Il a publié une première fois une nouvelle qui a eu un certain succès. Et puis depuis, il est en train d'essayer d'écrire un roman. Et il tombe amoureux d'une jeune étudiante et il décide d'aménager avec elle. Mais comme il est fauché, eh ben, il va être obligé d'enchaîner petits boulots et petites escroqueries pour payer le loyer, pas donner leur nid d'amour. En effet, on est à Paris et les petits nids d'amour à Paris, ça coûte très cher. Un film donc sur l'entre-deux. Il est entre deux cultures, ce jeune garçon. Il est franco-tunisien par ses origines. Hein. Il est entre deux villes, entre Paris et Lyon. Il est originaire de Lyon, mais il vit à Paris. Entre deux classes sociales, c'est un fils de prolo. Il aspire à devenir un bobo intello. Il est drôle et puis il est un peu déprimé à la fois. Bref, c'est un type qui a le cul en permanence entre deux chaises et qui doit affronter la dure réalité de la vie. Alors c'est un film, moi je qualifie ça de gentillet, parfaitement inoffensif, c'est très dans l'air du temps, c'est caractéristique d'une certaine jeunesse, mais c'est tout à fait visible, hein, parce que c'est sans doute proche d'une réalité vécue par pas mal de jeunes d'aujourd'hui dans les grandes villes. Il y a quelques touches d'humour, d'autodérision, ça sonne juste, mais c'est pas non plus d'un immense intérêt, sauf si on se reconnaît dans le personnage et les galères qu'il vit, donc c'est typiquement le film d'auteur, première réalisation d'un jeune metteur en scène qui n'a pas grand-chose à raconter, si ce n'est un énième récit d'apprentissage sincère à l'évidence qui raconte un petit peu sa vie. Voilà. Bon, ça peut se voir, mais de là à renoncer à d'autres activités, peut-être pas quand même.
Non, je vais aller voir Murina.
Bon, Murina, je t'en parle après.
D'accord.
Le Monde après nous, donc ça s'appelait. Et c'est au cinéaste. Tout comme au cinéaste, qui, à part nous, c'est un documentaire. Attention, c'est très long. Ça dure plus de 3 heures.
Oula.
Je vais vous dire ça exactement. 3h40, oui, alors il n'y a qu'une séance par jour et pas lundi. C'est un film réalisé par Jonas Trueba, je ne sais pas s'il est de la famille de Fernando Trueba, peut-être son fils. Jonas Trueba, c'est un réalisateur, scénariste et producteur espagnol né en 81. Il a réalisé auparavant des films qui ne sont pas tous sortis sur les écrans français. En 2010, Todas las canciones hablan de mí, toutes les chansons parlent de moi. Et je fais espagnol deuxième langue. Hein. Ah. 2016, La Reconquista. Bon, là, ça ferait plaisir à Éric Zemmour, hein, La Reconquête. Et puis, celui-là est sorti en 2019, Eva en août. C'était pas mal, d'ailleurs, c'est un bon souvenir. Donc, de quoi est-il question dans ce « Qui a par nous » de 3h40 ? Eh bien, pendant 5 ans, le réalisateur Jonas Trueba suit un groupe d'adolescents madrilènes et les transformations qui rythment leur passage à l'âge adulte. Portrait générationnel multiforme, qui à part nous est une question collective adressée à nous tous. Qui sommes-nous ? Qui voulons-nous être ? Les Cahiers du cinéma, Marcos Uzal. Ces 3h40 divisées en trois parties, dont chacune a sa cohérence, passent si vite. Les êtres filmés, la forme du film et notre regard de spectateur ne cessent d'évoluer ensemble, pris dans un même élan vital. Céline Roudin de la Croix, un récit immersif et plein de surprises, qui nous place au plus près de cet âge, de tous les possibles, et en fait une expérience cinématographique à part entière. Mathieu Macheré Le Monde, qui, à part nous, offre l'exemple d'un film merveilleusement imprévisible, qui semble se construire en cours de route, au gré des retrouvailles et des circonstances. Une petite république de cinéma où le collectif ne s'invente jamais, au détriment de l'individu. Xavier Le Herpeur dans l'Obs, en bousculant la chronologie, en mélangeant les temporalités, le cinéaste filme le chemin complexe entre ce qu'il et elle ambitionne d'être et ce que la réalité les contraint à devenir. Fallait-il faire si long ? Pas sûr, mais l'acuité et l'empathie de Trueba justifient grandement le projet. Baptiste Thion, le journal du dimanche, tout n'est pas passionnant dans ce film expérimental du fait de sa durée fleuve et du nombre de protagonistes conviés, mais avec son approche audacieuse, collective et empathique, il capte quelque chose d'unique de cette période où l'on se construit. Michel Besbach dans Télérama. On se noie dans cette longue performance désordonnée, sauvée toutefois par quelques moments de grâce et d'amusantes expérimentations narratives. Thierry Chaise en première, tant sur la forme que sur le fond, qui à part nous, nous laisse un sentiment d'inabouti. Je dois avouer que...
C'est très long. Hein.
Le fait d'affronter 3h40, oui. Ça m'a complètement rebuté. Enfin, c'est une expérience à tenter. 3h40 au cinéaste, une séance tous les jours et encore pas lundi prochain. Allez, petite pause musicale. Cette fois-ci, c'est dans Le Secret de la Cité Perdue qu'on entend ce titre. Ça s'appelle Big Energy et la chanteuse s'appelle Lato. C'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. J'avoue que je ne connaissais pas Lato et Big Energy. Hey,
bitch, I could be a fantasy. I could tell you got big, deep energy. It ain't too many niggas that can handle me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them sing to this pussy like a melody. And if your bitch ain't right, I got the remedy.
Let's go! I just won!
Let's get back to work, man. I quit.
Where are you going?
Tell me how you want it. 3, 2, 1, and I'm on it. Feel good, don't it? Hood bitch, fuck you in a bunny. I'ma bust it on the pole like honest. Aren't you being honest? Pussy juicy, mini made. But can't do it one mini man. Not a side or a main. I'm the only bitch he entertain. Spending his mind in the bank. I like what I see. A boss like you need a boss like me. Daddy from the street, so he move low key. Tryna rock that mic like karaoke. On the count of three, bad bitch, you get money. Broke niggas to the left, we don't want it. I'm the one these bitches hate, but they can't get past. Pretty face, no waist, and a big ol' ass, huh? Bad bitch, I could be a fantasy. I could tell you got big, deep energy. It ain't too many niggas that can handle me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them sing to this pussy like a melody. And if your bitch ain't right, I got the remedy. It ain't too many niggas that can handle me. Bad bitch, I could be a fantasy. How you want it? 3, 2, 1, camera rolling. Do it slow motion. Real bitch, the mother hoe bonus. All they big talk, Lotto put them on it. Aren't you being honest? Lingerie, Dolce, blindfold. Tie me to the bed while we role play. Can't skip foreplay, kill the pussy cold case. I'm a boss bitch, but tonight we do it your way. On the count of three, bad bitch, you get money. Broke niggas to the left, we don't want it. If you ever see me, bro.
work, I'm probably rocking the cast. Pretty face, no waist with a big old bag, huh? Bad bitch, I could be a fantasy. I could tell you got big, deep energy. It ain't too many niggas that can handle me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them sing to this pussy like a melody. And if your bitch ain't right, I got the remedy. It ain't too many niggas that can handle me. Bad bitch, I could be a fantasy.
Que l'on entend dans le film Le secret de la cité perdue. Voilà. Bon, c'est comme ça. Un talent en or massif, c'est proposé au Méga CGR, c'est proposé au Pâté Quinconce. Et au Pâté Quinconce, il y a au moins une séance en version originale par jour. C'est un film, ce talent en or massif, de Tom Gormican. Je pense que ça se prononce comme ça, je ne vois pas comment ça se prononce autrement. Acteur, réalisateur, scénariste américain en 70. Il avait réalisé en 2014 « Célibataire ou presque » avec Zac Efron et ça avait été directement envoyé en VOD, donc pas sorti, pas distribué sur les écrans français. 1h48 pour ce talent en or massif. Nicolas Cage est maintenant un acteur endetté qui attend le grand rôle qui relancera sa carrière. Pour rembourser une partie de ses dettes, son agent lui propose de se rendre à l'anniversaire d'un dangereux milliardaire qui se révèle être son plus grand fan. Mais le séjour prend une toute autre tournure lorsque la CIA le contacte, lui demandant d'enquêter sur les activités criminelles de son hôte. Nicolas Cage va devoir jouer le rôle de sa vie et prouver qu'il est à la hauteur de sa propre légende. L'Obs, François Forestier, on est quelque part entre Dans la tête de John Malkovich et Grosse fatigue de Michel Blanc, mais sur le mode percuté grave. Bien dans l'esprit de Nicolas Cage, il a acheté la Lamborghini du chat, collectionné les crânes humains et possède une Vénus de Milo, mais la sienne a deux bras. Bon, je savais pas ça. Le Parisien, drôle et enlevé, plein de dialogues croustillants et de références à la carrière du vrai Nicolas Cage, le film offre l'occasion aux comédiens de livrer une interprétation ahurissante et sur le fil qui relève de la mise en abîme, tant le scénario multiplie les clins d'œil à ses rôles passés et joue avec son image publique. Thierry Chasse dans West France, après avoir longtemps hésité à accepter ce projet, Cage y révèle une dérision irrésistible qui lui permet de reprendre la main sur une image parfois dévoyée, un geste malin pour un film qui ne l'est pas moins. Léo, Jimmy Battista dans Libération, les amateurs de Cage y trouveront leur compte, tout comme ses détracteurs et surtout ceux qui, entre les deux, n'ont rien demandé et cherchent avant tout à passer un bon moment. Au-delà de son concept acrobatique, le film de Gormican reste en effet pour l'essentiel une comédie plaisante, reposant sur le très efficace duo formé par Cage et le décidément impeccable Pedro Pascal. Je dois dire que Pedro Pascal, je ne le connaissais pas, hein, moi. Alex Masson dans Cinématiseur, amusant mais pas suffisant pour transformer en or le plomb d'une écriture et d'une mise en scène impersonnelle. Gaël Golen en première. Malgré une bonne idée de base, une farce conceptuelle méta, le film préfère rester bien calé dans les formules standards de la comédie d'action. Dommage. Adrien Gombeau, les échos, Mazo, Schizo, Mégalo, Nicolas Cage en fait des tonnes dans son propre rôle. Un film réservé au fan club d'un acteur plus que jamais déchaîné. Donc, un talent en or massif, c'est proposé par le cinéma Méga CGR et par le Pâté Quinconce. Et au Pâté Quinconce, il y a au moins, oh, je dis bien au moins, oui, parce qu'il n'y en a qu'une, séance en VO par jour. Donc, c'est une savoureuse comédie d'action et c'est surtout un petit bijou d'autodérision puisque Nicolas Cage y joue Nicolas Cage, ou si vous préférez, l'acteur y interprète son propre rôle et il interprète même lui-même dans une sorte de mise en jeu, mise en abîme, lui-même plus jeune.
Ah oui, c'est vrai.
Aujourd'hui, c'est aussi possible avec les effets numériques de modifier l'apparence d'un acteur et on retrouve un Nicolas Cage plus jeune qui dialogue avec Nicolas Cage
oui, c'est,
actuel.
C'est un peu son âme et conscience voilà. Qui lui parle.
Bien. Et donc, il fait preuve véritablement d'un vrai sens de l'humour au premier, au second degré. Alors l'histoire Bah, Nicolas Cage, il est vraiment au bout de sa vie, comme on dit aujourd'hui. Il est au creux de la vague pour sa carrière. Il a les problèmes familiaux, notamment avec sa fille. Il est couvert de dettes. Bon, bref, rien ne va pour lui. Il a enchaîné les navets. Il n'a plus guère de crédibilité dans la profession. Il accepte donc de rencontrer un richissime homme d'affaires qui est un vrai fan, qui lui propose $1 million pour être présent à son anniversaire et lui soumettre également un scénario de film. Oui, mais voilà, la CIA soupçonne cet homme d'affaires d'être un dangereux malfrat et propose à Nicolas Cage de jouer les agents infiltrés. Donc c'est le début d'une histoire à multiples tiroirs avec maints rebondissements et surtout l'occasion pour l'acteur de jouer avec son image en multipliant les références à sa carrière et à ses rôles marquants tout en, en fabriquant un véritable film d'action. Voilà. Alors, ça donne un film plein d'humour avec Nicolas Cage totalement décomplexé qui joue sur tous les registres, s'auto-parodiant dans une sorte de film autobiographique où il se moque des différentes images qu'il a pu avoir tout au long de sa prolifique carrière. C'est vraiment drôle et en plus c'est un vrai film d'action, second degré, matinée de buddy movie, mais ça, ça ne tient pas totalement sa promesse de départ parce que justement le film finit par tomber dans ce qui l'égratigne, à savoir un film d'action standard. Mmh. Donc ce qui est intéressant, c'est Nicolas Cage jouant Nicolas Cage et se moquant de lui-même. Le film d'action en lui-même, là c'est un peu bateau. Alors, Pierre.
Alors, l'or massif, c'est une allusion sans doute au pistolet qu'on voit dans le film, mais je vais pas en dire plus si vous allez le voir. L'histoire se déroule pour la majeure partie en Espagne, mais a été tournée en Croatie. Le film dans lequel Nicolas Cage interprète son propre rôle, tu l'as dit, celui d'un acteur connu et reconnu, est censé être drôle, ce film. Je dis censé, car en ce qui me concerne, je n'ai pas ri, encore une fois, dans cette comédie. Ce film, en fait, est plutôt une sorte de thriller à l'américaine, avec quelques clichés, tels par exemple la poursuite infernale en voiture entre les bons et les méchants. Un film sans prétention, avec tout de même un Nicolas Cage égal à lui-même dans ce rôle d'acteur, mêlé à une histoire d'espionnage à l'américaine. Un Nicolas Cage aussi attendrissant, parfois en père d'une adolescente de 16 ans. Si vous aimez l'acteur, vous aimerez le film. Pour ma part, je suis sorti de la salle mi-figue, mi-raisin quand même.
Bon, eh ben donc ça s'appelle Un talent d'or massif. Possibilité de le voir en VF au Méga CGR, en VF et une séance en VO au Pâté Quinconce. Les Secpa, on repart au Méga CGR et au Pâté Quinconce. C'est un film de Ali et Hakim Bougueraba, parce que là aussi ils sont frères. C'est leur premier long métrage. Ils sont surtout connus pour cette web-série qu'on appelle Les Secpa, que je n'ai pas vue. Et donc, le film dure 1h39. Les Secpa se font virer de leur établissement. Alors, grande surprise, ils intègrent le prestigieux collège Franklin Roosevelt. Le principal, peu enclin à voir la réputation de son école se détériorer, imagine un stratagème pour virer les Secpa, tout en conservant les aides. Alors qu'ils savourent leur nouvelle vie, lient des amitiés et deviennent de plus en plus populaires, les Secpa découvrent le projet du principal. Ils décident alors de tout faire pour déjouer ses manigances. Petite revue de presse parce que beaucoup de critiques n'ont pas osé franchir le pas ou la porte de la salle. Le Parisien, alors même s'ils ont d'indécrottables défauts et flirtent avec, voire dépassent, la ligne jaune sur certaines blagues de mauvais goût, on se prend d'affection pour ces drôles de cancres amenés par Hichem Bougueraba, solaire dans le costume principal. Les Inrecuptibles, le résultat est certes loin d'être hilarant, mais toujours énorme, éminemment sympathique. À la manière d'une petite Gastambiderie, oui, film de Franck Gastambide, hein, gentillette et beaucoup moins oppressive qu'annoncée. Télérama, Marion Michel. Sans surprise, le long-métrage coproduit par Cyril Hanouna et qui vient de sortir en salle est consternant de bêtises. Il stigmatise les élèves en difficulté des classes des sections d'enseignement général et professionnel adaptées. J'avais vu les gagnants la semaine dernière, à l'impossible nul des tenues, je ne suis pas allé voir les Secpa alors que matériellement j'en avais la possibilité. Mmh. Je m'en suis privé, je pense que j'ai bien fait. Bon, les Secpa. Murina, alors Murina, je l'ai vu et on en parle tout de suite puisque Murina, c'est un film qui est proposé par les cinéastes, une ou deux séances par jour. C'est un premier film là aussi et c'est un film croate, c'est pas fréquent les films croates, d'Antoneta Alamad Kuzijanović. Donc, je répète, c'est un premier film. Réalisatrice et actrice croate, née en 85, durée 1h36. Sur l'île croate où elle vit, Julia souffre de l'autorité excessive de son père. Le réconfort, elle le trouve au contact de sa mère et de la mère, mère Thalassa hein, en grec, un refuge dont elle explore les richesses. L'arrivée d'un riche ami de son père exacerbe les tensions au sein de la famille. Julia réussira-t-elle à gagner sa liberté ? Cyprien Cadéo dans l'Humanité. L'été, d'habitude propice à la découverte des corps et aux premiers émois, est ici une pesanteur supplémentaire. La mer, un facteur d'enfermement autant qu'une promesse de liberté. La tension se fait de plus en plus palpable à mesure que le film avance. Le malaise contamine la carte postale. Olivier de Bruyne dans Les Échos, dans son premier film, la réalisatrice croate met en scène une jeune femme en lutte contre son père et contre le machisme dans une fiction sensuelle et émouvante. Un remarquable coup d'essai récompensé par le prix La Caméra d'Or l'an passé au Festival de Cannes. Alors, La Caméra d'Or, ça récompense un premier film au Festival de Cannes. Le Figaro, Eric Neuhoff, une adolescente sauvage et lumineuse, se libère du joug paternel dans ce premier film croate. Une réussite. Alexis Campion, le journal du dimanche, Caméra d'Or à Cannes, coproduit par Martin Scorsese. Ce premier film captive avec son intrigue tendue, ses virées sous-marines, sa photographie lumineuse et surtout ses personnages bien dessinés, chargés de regards et de non-dits qui trahissent des émotions à vif. Le Parisien, un récit d'anticipation... d'émancipation, ça n'a rien à voir. Un récit d'émancipation captivant, interprété par des comédiens totalement habités par leur rôle. Ouest France, un récit initiatique tout en finesse. Céline Roudin-Lacroix, sur un motif relativement classique, la réalisatrice croate installée à New York, construit un récit d'émancipation féminine brillamment mené, qui a tout du conte ou du récit mythologique. Sophie Gracien dans l'Obs, cette histoire d'émancipation n'est pas neuve, mais le jeu de Krasija Filipovic, bon, c'est les J comme des I. Hein. Sauvageonne butée lui donne la noblesse d'une tragédie antique. Elisabeth Franck Dumas dans Libération, tout est crédible dans cette aimable chronique d'émancipation, mais Murina ne renouvelle pas non plus l'exercice. Murina, 1h36, proposée par le cinéma Les Cinéastes, avec une ou deux séances par jour. Julia, donc, c'est une jeune fille qui vit avec ses parents, isolée dans une île paradisiaque de Croatie, entre une mère aimante et complice et un père autoritaire, peu compréhensif de ses aspirations, mais quand même avec lequel elle partage une passion pour la plongée sous-marine. Et puis un jour, arrive dans cette île un ami d'enfance de son père, un homme d'affaires richissime, à qui le père de Julia espère vendre un terrain pour monter un complexe touristique. Voilà, s'installe alors, lors de ce séjour, tout un tissu de relations ambiguës et de plus en plus tendues entre les différents personnages. Donc, les personnages, c'est la famille de Julia, le père, la mère, Julia, et ce richissime homme d'affaires, ami de son père. Superbes images, conflits de personnes, sensualité, beaucoup de non-dits sur le passé des personnages, des non-dits d'ailleurs jamais vraiment complètement explicités. Hein. Bon, fond de ce film, une curiosité dont je ne pense pas avoir saisi d'ailleurs toute la symbolique, par exemple la symbolique des murènes m'a un peu échappé, mais bon, peut-être que je me fais un film en pensant qu'il y a une symbolique, mais je pense que si quand même. Un récit d'émancipation dont on peine quand même à saisir ce qui lui a valu la Caméra d'Or à Cannes l'an dernier. Parce qu'à part le cadre géographique, il n'y a pas une grande originalité dans cette histoire de tyran domestique possessif et jaloux, mais malgré tout prêt à fermer les yeux sur certaines choses pour réaliser une affaire juteuse. Bref, c'est un drame psychologique dans un décor solaire qu'on peut voir sans crainte ni de s'ennuyer, ni de s'esbaudir, il faut bien le reconnaître. Voilà.
Oui, parce que c'est pas trop long en plus.
C'est pas trop long en plus. Murina, voilà. Bon, allez. Un petit Creedence Clearwater Revival, ça fait pas de mal. Oui. On entend ce titre dans Un talent en or massif. Down on the Corner sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Je crois qu'on l'a déjà passé, ce Down on the Corner. C'est pas une nouveauté absolue dans le domaine de la musique. Allez, c'est parti. Oh, Down on the Corner, Creedence Clearwater Revival, un titre qui pourrait passer dans l'émission de Pierre.
Oui, tout à fait, ouais. Hein? Fin des années 60.
Voilà, absolument. Rappelons que cette émission a lieu le samedi à
16h.
Voilà, sur Radio El Paso, 107.3 FM Le Mans. Bien, Ogre. Ogre, c'est un film de Arnaud Malherbe. Arnaud Malherbe, c'est un réalisateur scénariste qui a à son actif jusqu'à présent des courts-métrages, des épisodes de séries, des téléfilms et un film Belleville Story pour la plateforme OCS, Orange Ciné Série. Ce film Ogre dure 1h43. Il est proposé au Pâté Quinconce et au Colisée. Oui, au Colisée. Fuyant un passé douloureux, Chloé, c'est Anna Girardot, hein, démarre une nouvelle vie d'institutrice dans le Morvan avec son fils Jules, 8 ans. Accueillie chaleureusement par les habitants du village, elle tombe sous le charme de Mathieu, un médecin charismatique et mystérieux. Mais de terribles événements perturbent la tranquillité des villageois. Un enfant a disparu et une bête sauvage s'attaque au bétail. Jules est en alerte, il le sent. Quelque chose rôde la nuit autour de la maison. Caroline Viéda en 20 minutes, la menace de plus en plus lourde entourant une héroïne au passé chargé, constitue un atout majeur pour un conte qui délaisse le gore au profit d'une atmosphère oppressante. Emmanuel Spalacenta dans Cinématiseur, film social et rural, d'accord, mais surtout histoire d'épouvante, racontée à travers les yeux d'un enfant malentendant. Surprenant, conclut Emmanuel Spalacenta. Frédéric Strauss-Télérama, le jeune acteur Giovanni Pucci, frêle et fort, a l'art de nous embarquer avec lui pour affronter ses démons et accomplir lui aussi un passage vers l'âge adulte à pas de géant. Ben, à l'âge adulte, il a 8 ans hein, quand même. Il n'est pas encore à l'âge adulte, hein, passons. Olivier Delcroix, Le Figaro, un premier film d'atmosphère très classique, au final décevant, mais dont Anna Girardot ressort grandie. Ben oui, tout à fait. Cahier du cinéma, Josué Morel, figurait une tension entre le visible et l'invisible, dévoiler touche par touche une menace, ouvrir une brèche dans un cadre réaliste pour matérialiser les pulsions et peurs enfouies. Tous ces éléments sont présents dans Ogre, mais ne paraissent guère investis. Céline Roudin-Lacroix, à la lisière du fantastique, le film d'Arnaud Malherbe, revisite intelligemment le mythe de l'ogre à travers les traumas d'un enfant, mais joue maladroitement avec les codes du genre. Le Parisien, Michel Valentin, le film a-t-il pâti du Covid, qui a interrompu durant plusieurs mois son tournage ? Toujours est-il que le résultat ne fait jamais peur, un comble quand même pour une œuvre fantastique portant un tel titre. Et oui, ça s'appelle Ogre. Philippe Rouillet dans Positif, face à des situations trop prévisibles, le mystère autour de l'existence dans les bois d'un ogre qui s'en prendrait aux enfants fait long feu. Ludovic Béot, Les Inoccupables, Ogre est inopérant sur les deux tableaux, autant sur la description sociologique des violences et la rivalité d'une certaine ruralité que sur l'écriture du fantastique. Ogre présenté au Colisée et au Méga CGR. Ben, c'est un conte fantastique, Ogre, un conte fantastique, comme très souvent en pareil cas. Le réalisateur s'est créé une atmosphère mystérieuse, mais échoue dans son épilogue. Chloé, donc, c'est une jeune institutrice, elle a un passé un peu douloureux, avec son jeune fils qui est malentendant. Elle arrive pour prendre son nouveau poste d'institutrice dans une petite commune rurale du Morvan. Elle est bien accueillie par la population locale, et notamment par le jeune médecin du village. Et elle perçoit quand même, tout de même, bien vite qu'il y a un malaise, en effet. Plusieurs animaux, notamment des veaux, semblent avoir été attaqués par une bête sauvage qui semble faire des ravages dans le coin et un enfant également a disparu. Bon, Jules, parallèlement, son fils, est en proie à d'inquiétantes terreurs nocturnes, ressentant une étrange présence même effrayante, autour de la maison. Voilà, c'est un début convaincant, c'est sûr, avec l'installation d'une situation de plus en plus anxiogène, utilisant intelligemment les sons que perçoit ou ne perçoit pas Jules. L'ambiance nocturne, la profondeur de la forêt, la personnalité et les perceptions de l'enfant, tout ça c'est bien vu, ça part bien et puis ça s'éparpille et la conclusion déçoit. Dommage parce que Arnaud Malherbe avait su créer une vraie tension avec ces bruits, cette silhouette menaçante que ne perçoit que Jules, faisant un film sur les terrains enfantines, mais à vouloir apporter une conclusion, eh bien le film se perd dans le surnaturel et échoue à être vraiment flippant, sauf pour d'éventuels spectateurs préadolescents. Mais je ne suis pas sûr que des éventuels spectateurs préadolescents iront voir le film. Voilà, donc c'est très mitigé mon opinion sur cet ogre. Ça part bien et puis ça finit moins bien, ou même pas bien du tout. I-Comet. Alors la semaine dernière, je me demandais si on prononçait I-Comet. Mais non, pas du tout, c'est un film corse. Donc c'est I-Comet comme I-Mouvrini.
Ou Cometé, non, peut-être
Cometé, peut-être, oui.
En Corse,
peut-être,
oui,
c'est possible. Ça veut dire les comètes. Voilà. C'est interdit aux moins de 12 ans, ben oui. Les grandes vacances en Corse, les enfants s'égayent, les ados traînent, les adultes réfléchissent à l'avenir. Les aînés commentent le temps qui passe, ceux qui vivent à la ville retrouvent ceux qui n'ont jamais quitté le village. Famille et amis toujours partagent ce moment suspendu dans la montagne, mais malgré le soleil et les éclats de rire, l'été ne guérit pas toutes les blessures. Le film proposé donc au cinéaste, il dure 2h07 et il a droit à une ou deux séances par jour. Voilà, Icomette, je ne sais pas, voilà. Alors, Libération, Luc Chessel, Le temps d'un été au village, le premier et très beau long-métrage de l'acteur Pascal Taniati, propose une myriade de manières rêveuses de réinventer le récit. Le journal du dimanche, Alexis Campion, on est d'emblée captivé par ce premier film qui est la façon d'un tati contemporain à l'art de combiner l'insolite et l'ordinaire, où la drôlerie naît de la curiosité. Thierry Chaise dans West France, mêlant acteur professionnel et amateur, cette succession de scénettes en plan fixe allie maîtrise de la mise en scène et liberté avec un formidable sens de l'insolite. Louis Guichard dans Télérama y commette, séduit, sans calcul et déconcerte en beauté. Sophie Gracien dans L'Obs, politique agricole, rapport à l'Hexagone, sentiment d'isolement, y commette, embrasse l'insularité avec des partis pris si affirmés qu'il s'en dégage un magnétisme singulier. Et Thierry Chaise, cette fois-ci dans Première, une parenthèse enchantée avant que ce petit monde se sépare à la fin de l'été pour mieux se retrouver au suivant. Un délice, conclut Thierry Chaise, qui a donc beaucoup aimé ce film, y commette, proposé par les cinéastes et que je n'ai pas vu parce que c'était ça ou Ogre, et j'ai vu Ogre et j'ai peut-être pas fait le bon choix. Enfin voilà. Pas donc, y commette, c'est proposé par le cinéma Les Cinéastes avec une ou deux séances par jour, 2h07. Allez, petite pause musicale, on a largement le temps. Oui, alors là, c'est pas trop la programmation habituelle de Radio Alpa, mais on entend ce titre dans le film Le Monde Après Nous. Donc, La Rousseau, Tu m'oublieras, c'est un titre absolument mythique, hein, ça je vous dis tout de suite. Les filles d'une certaine génération en sont raides dingues. Hein. Dès qu'on passe ça, elles se mettent à pousser des cris d'hystérie. La Rousseau, Tu m'oublieras, sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, pour la première et sans doute la dernière fois. La Rousseau, Tu m'oublieras, une chanson mythique hein, pour beaucoup de filles. Il faut savoir que c'est Régine qui avait créé la chanson dans les années 80, qu'elle a été reprise ensuite par Jane Manson, mais c'est La Rousseau qui l'a bien entendu rendue mythique et culte.
Années 90, non ?
Ouais, à peu près. 90, oui. Absolument. Et cette chanson, on l'entend dans d'autres films, hein, on l'a entendu dans un film avec Sandrine Kiberlin qui s'appelait Mon bébé. Voilà, donc Tu m'oublieras, on l'entend dans le film Le Monde Après Nous. Alors, les films à l'affiche la semaine prochaine, les avant-premières. Sachez que si vous nous écoutez en direct, ce soir, au Cinéaste, il y a un film à 18h. Nous habitons là-haut, en partenariat avec l'association Ch'ti en Maine. C'est un documentaire sur le carnaval de Dunkerque en mars 2020, juste avant le début du Covid, un vendredi, donc aujourd'hui à 18h, proposé par les cinéastes. Et puis, toujours dans les séances un peu spéciales, mardi 26 à 20h, Little Palestine, journal d'un siège, un documentaire là aussi sur le Moyen-Orient exactement, ou quoi, je ne sais pas trop, les réfugiés palestiniens d'un quartier en Syrie, voilà, je ne sais pas trop. Voilà. Bien, alors aussi, il y aura avant-première mardi soir. en présence du réalisateur Philippe Guillard de J'adore ce que vous faites, à 20h30 au Méga CGR. Le réalisateur viendra avec, je crois, Artus, hein, puisque Artus et Gérard Lanvin sont les deux acteurs principaux du film. Le film sortira qu'au mois de mai, hein, vers le 15 mi-mai à peu près. Et donc, l'avant-première, c'est mardi à 20h30. Je crois qu'également, il y a, mais ça à vérifier, que mardi, au Méga CGR, il y a aussi Downtown AB 2, une nouvelle ère, à 19h50. Mais ça, c'est à vérifier. Et puis alors ça, c'est le pâté qui sort. Alors, c'est samedi et dimanche, pas les avant-premières, c'est le film Coda, qui a obtenu l'Oscar cette année, et puis qui ne sortira jamais vraiment en salle, parce que c'est un film Netflix. Mais là, il y a quand même quelques séances qui sont proposées par le Cinéma Pâté. Donc samedi, c'est à 14h à 20h en version française, et dimanche à 11h en version française, et 16h version originale. Coda, c'est le remake de La Famille Bélier. Mmh. Le film, donc, je répète, a eu l'Oscar du meilleur film cette année. Donc ça, c'est des séances spéciales au Pâté, samedi 23, dimanche 24. Allez sur le site du Pâté, vous aurez tous les horaires et toutes les précision nécessaire. La semaine prochaine, alors, il n'est pas certain encore qu'il y aura un clap la semaine prochaine, mais je vous annonce quand même les films à l'affiche. Il y aura La Ruse de John Madden, avec Colin Firth notamment. Il y aura Le Médecin Imaginaire avec Alban Ivanov et Fatsa Bouyamed. Il y aura Hit the Road, ça c'est au cinéaste, un film iranien. Ma famille afghane, c'est un film d'animation, ça c'est aussi au cinéaste. Il y aura La Femme du Fossoyeur, c'est un film qui passera au cinéaste. Il y a La Sentinelle, pardon, Sentinelle Sud, celui-là, ça m'intéresse. C'est un film avec Nils Schneider. Et puis, La Colline où rugissent les lions au cinéaste. Enfin, ils avaient 4 ou 5 films au cinéaste. Une fois de plus, on se demande comment ils vont faire pour présenter ça convenablement avec plusieurs séances par jour, mais je n'y crois pas trop. Et puis, je répète, il y aura Downtown AB 2, une nouvelle ère qui est la suite de Downtown AB. Il y aura peut-être d'autres films, mais je ne peux pas vous l'affirmer avec certitude. Donc, voilà. Et donc, cette semaine, bon, ben, Pierre n'a pas trop aimé Un Talent en Or Massif.
On va aller voir quand même, ça se laisse voir.
Moi, j'ai bien aimé, surtout en VO. Je l'ai apprécié en VO.
Je l'ai vu en VF. Quoi.
Voilà. Et puis, alors, après, les autres films, où je ne les ai pas vus, où je suis un peu mitigé. Aucun que j'ai détesté, mais aucun qui m'a fait bondir de mon siège. Ceci dit, il en faut beaucoup pour me faire bondir de mon siège. Voilà. Donc, nous, on se retrouve peut-être la semaine prochaine, mais ce n'est pas sûr. Le 6 mai, je crois que c'est le kaléidoscope des 40 ans de Radio Alpa.
De toutes les émissions de Radio Alpa.
Voilà, oui. Donc il n'y aura probablement pas d'émission où, cette semaine-là. Donc,
mais on sera là quand même, à 12h30.
Oui, mais bon, je ne sais pas si entre 12h et 12h30, on pourra faire quelque chose, mais je crois que non. Et puis, eh ben, sinon, on se retrouvera éventuellement dans 3 semaines. Hein, et puis voilà, c'est comme ça. Hein. Bon, eh ben, en attendant, on vous souhaite une bonne semaine cinématographique sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
Au revoir.
Au revoir.